Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et vous êtes sur un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, vous le savez, ce sont le lundi des conversations passionnantes, j'espère, avec des personnalités remarquables dans des domaines variés autour de l'entrepreneuriat, du business, du sport et j'en passe. Et le mercredi, avec les leçons du Gratin, je viens à votre rencontre pour essayer de répondre à vos questions sur plein de domaines variés autour aussi du business lifestyle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Constance qui me pose une question que vous êtes assez nombreux, je dois dire, à développer quand vous m'abordez sur les réseaux sociaux. Cette question est tout simplement: comment se lancer dans la création d'entreprise quand on est salarié? Comment se lancer, dois-je dire? Et également, faut-il se lancer dans la création d'entreprise quand on est salarié? Faut-il au contraire décider plutôt de quitter son emploi? Faut-il le faire en parallèle? C'est une question que j'ai longuement abordée avec Constance dans cette leçon du Gratin. J'espère qu'elle vous sera utile, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du Gratin. Salut Julie, écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le Gratin. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par te présenter et puis ensuite me dire ce qui t'amène?
Eh bien, bonjour Pauline, merci beaucoup pour cet entretien que tu m'accordes. C'est vrai que je me nourris de tes leçons et de tous tes podcasts très régulièrement, donc j'avoue que ça fait un peu bizarre d'avoir ta vraie voix là au téléphone, mais c'est super. Donc, je m'appelle Julie, j'ai 35 ans et je voulais te poser une question concernant du coup la création d'entreprise quand on est déjà salarié. Moi, je suis actuellement en poste. Je suis sur un boulot que j'aime. Je suis dans une boîte où je suis bien. Mais voilà, c'est vrai que la fibre entrepreneuriale, elle commence à pousser.
L'appel de l'aventure.
Exactement. Et donc voilà, c'est vrai que là, sur les derniers mois, j'ai réfléchi à un projet qui moi, me botte bien. Mm-hmm. J'ai déjà commencé à avancer un petit peu en posant à peu près, un simili business plan sur papier. J'ai déjà commencé à faire des études de marché pour voir si mon projet pourrait correspondre à la cible que j'ai en tête. Donc voilà, la question première, c'est quand on est salarié, quelle, stratégie vaut-il mieux adopter quand on veut se lancer dans un projet comme ça entrepreneurial? Est-ce qu'il vaut mieux y aller petit à petit, donc avoir deux activités en même temps, sachant que forcément à un moment l'une ou l'autre des activités va subir entre guillemets le manque de temps et le manque de concentration peut-être, ou est-ce qu'il vaut mieux vraiment mûrir ce projet d'un coup d'un seul et vraiment s'y lancer tête perdue? Et la deuxième question que j'avais, c'est: est-ce que tu es au courant s'il y a des aides ou en tout cas des accompagnements pour les salariés qui veulent monter leur boîte, comme il y a par exemple l'ACRE pour ceux qui sont en recherche d'emploi?
Écoute, alors je te remercie parce que c'est des questions que j'aime beaucoup. Bon, surtout la première parce que j'ai plein de personnes qui me la posent. Donc, je te remercie de m'avoir sollicité avec cette question. Et je vais te faire une réponse de Normande, je te préviens, Julie, puisque en réalité, je pense que ça dépend énormément de ta situation à toi. Parce que moi, je suis pas forcément, je suis pas forcément d'avis d'avoir, une idée complètement arrêtée sur ce sujet. Je pense que quand on est maman avec deux enfants à charge, qu'on n'est pas forcément financièrement, hyper sûr de soi, évidemment, je dirais qu'il faut continuer à jouer quand même un minimum de sécurité et donc continuer à travailler en parallèle de son activité. activité entrepreneuriale. Après, en sachant que du coup, bah, forcément, l'activité entrepreneuriale, elle va en pâtir parce que bah, t'es fatigué le soir, t'as pas envie, en plus t'as tes enfants à gérer, etc. Donc c'est sûr que c'est plus difficile, mais d'un autre côté, ça te donne un confort qui fait que t'as le temps et qui fait que tu vas pouvoir globalement le faire assez sereinement à ton rythme. Et franchement, je trouve qu'il y a pas du tout de...
à son rythme.
Exactement. Je trouve qu'il n'y a pas du tout de honte à ça. Je pense que ça dépend, un, de ta situation, sincèrement, on va dire financière et personnelle. Et d'autre part, je pense que ça dépend énormément aussi de ton état psychologique. Il faut faire un travail un peu de recul sur soi et de se dire, est-ce que je suis plutôt du style à être assez discipliné de base et pas tellement avoir besoin, si tu veux, de brûler les ponts derrière moi pour être sûr d'avancer? Ou est-ce qu'au contraire, je sais que si moi, je suis pas acculé, tu vois, devant le précipice, en fait, je sauterai jamais. C'est un peu ça la question. Moi, je te donne un exemple. Moi, je sais que je suis plutôt du style assez discipliné et donc j'ai pas tellement de problèmes de motivation de façon générale. Et donc, je sais que ça fait partie à la fois de mes forces et de mes faiblesses. Hein. C'est que j'ai tendance à dire un peu oui à tout et à me jeter sincèrement dans beaucoup de choses. Et du coup, faire parfois un peu trop, mais donc j'ai pas de problème pour me motiver. Donc je serais plutôt dans le cas de figure où moi je pourrais continuer à travailler dans ma boîte en parallèle d'une nouvelle activité professionnelle. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait très honnêtement quand j'ai senti que j'avais envie de lancer un podcast avec Le Gratin. À l'inverse, si je te parle de quelqu'un que je connais très bien, c'est mon mari. Mon mari, il est brillant, je l'adore, tout ce que tu veux, mais lui, il est très différent de moi de ce point de vue-là. Il est un peu monomaniaque. C'est-à-dire que lui, il a beaucoup de mal à travailler sur plusieurs projets en même temps, parce qu'en fait, s'il n'est pas à fond sur un projet, il n'arrive pas à se motiver pour le reste. Mais vraiment, c'est comme ça. Et d'une certaine manière, je trouve ça top, tu vois, c'est que c'est quelqu'un de très entier et il arrive vraiment à se focaliser à 200% sur quelque chose.
Et donc, bah, du coup, si il est jamais... très investi dans les projets qu'il entreprend.
Exactement. Donc, c'est positif aussi, si tu veux, mais c'est juste une personnalité, une vision de la vie qui est différente. Et donc, je pense que toi, ça serait intéressant, là, je te pose la question. T'es peut-être pas tout noir ou tout blanc comme moi ou comme mon mari, mais est-ce que tu penses que t'es plutôt dans mon cas de figure, plutôt d'un naturel, tu vois, où tu sais que par le passé, t'as pu mener des projets, mais ça peut même être des projets personnels, hein, tu vois, de front en même temps, ou à l'inverse, est-ce que tu sens au fond de toi que si jamais tu ne poses pas ta dème, tu ne vas finalement jamais réellement t'investir? Parce que c'est ça la question.
Alors, moi, je suis clairement beaucoup plus comme toi, c'est-à-dire que j'ai un naturel où il me faut des projets. Sinon, ouais, c'est presque quelque part, je vais m'ennuyer. Et quand j'ai annoncé à mes potes que j'avais ce projet-là, il y en a plein qui m'ont dit, bah, ça m'étonne même pas, en fait.
Ouais,
donc, ça y est, c'est bon, j'ai changé de boîte il y a peu de temps et j'ai trouvé un boulot que j'aime et où je m'éclate. Et donc, d'annoncer que j'ai un nouveau projet de création de boîte, ça n'étonne personne parce que apparemment ça fait partie de ma personnalité. Et c'est vrai que là, les derniers mois, je n'ai eu aucun souci. Le soir, en rentrant, bah, de bosser encore une heure ou deux le soir sur mon projet pour essayer d'y réfléchir, de le monter, de poser des chiffres sur papier, de faire l'étude de marché. Mon mari était aussi beaucoup investi avec moi, donc il m'a permis notamment de mieux réfléchir le business plan. C'est vrai que des fois, j'ai ce côté un peu tête brûlée, ou si ça tenait qu'à moi, je sauterais tout de suite à fond dans le projet. Donc, mon mari, pour le coup, m'aide beaucoup à un peu faire un pas en arrière, me poser, réfléchir et avoir une réflexion un peu plus intelligente sur mes projets et plus construite. Donc,
dans ce cas de figure,
à faire des choses en même temps. Ouais.
Ouais, bah c'est intéressant parce que du coup, dans ce cas de figure, j'aurais tendance à te conseiller plutôt de garder ton activité dans ton entreprise, parce qu'en plus tu l'apprécies. Que d'autre part, moi je te dis qu'il suis du même type de personnalité que toi, je me rends compte qu'il y a une vraie valeur aussi à mêler les deux, moi par exemple entre le podcast et entre Gémio, parce que en fait les deux se nourrissent et que plein de choses que j'apprends sur le podcast, je les donne à Gémio et vice versa, et que j'aurais jamais pu créer évidemment un podcast qui marche, je pense, comme Le Gratin si jamais j'avais pas l'expérience que j'ai chez Gémio. Donc en fait, les deux sont complètement nourris l'un par l'autre, et donc ça peut être une vraie force, c'est-à-dire que la somme des deux fait plus que l'un et l'autre, si tu veux, ça fait encore quelque chose d'autre. Donc ça, c'est hyper intéressant.
Donc il faut plutôt le voir comme tu dis, l'un peut nourrir l'autre plutôt que l'un va faire de l'ombre à l'autre.
Complètement. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Après, comme t'en es certainement au début, il faut aussi que tu te crées peut-être, que tu te forces à te créer une discipline, à la fois pour te dire, bah en fait. Mais moi, je le ferais une discipline moins en termes de temps passé qu'en termes d'objectifs. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de se dire, je vais travailler 2 heures tous les soirs sur mon projet, parce qu'en fait, tu peux travailler 2 heures, mais que ça soit complètement inefficace, ça ne sert à rien. Par contre, que tu te dises, pour telle date, à telle heure, je me fixe comme objectif de, je sais pas, avoir sorti un site internet, avoir un premier prototype, je sais pas ce que c'est ton business, tu vois, mais avoir lancé quelque chose de concret qui soit
palpable dans la vie réelle. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, si tu as un objectif, qu'en plus tu t'es engagé, par exemple, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes amis, etc., bah, d'une manière ou d'une autre, ça va te forcer à avoir un suivi. Parce que le problème que tu risques d'avoir, si t'es... Alors, moi, j'étais beaucoup comme ça, je me suis pas mal surveillée, mais c'est que comme on est des gens plutôt enthousiastes, créatifs et qui aiment la nouveauté, eh bien, en fait, on s'emballe très, très vite, mais on peut quand même, il faut le dire, assez souvent manquer de suivi.
Donc, pour que t'aies un suivi... Bah, je le vois quand je rentre d'une grosse journée de boulot, où j'étais beaucoup sur la route, j'ai pas forcément envie de bosser là-dessus, et il y a des fois, des nuits, j'arrive pas à dormir et je peux bosser 5 heures dessus d'affilée. Bah, Donc, il faut que je trouve un équilibre là-dedans. Et là, quand tu parles d'objectif, je me suis mis comme objectif, là, ce week-end, d'arrêter le nom pour le projet. Parce que ça fait quelques semaines que je suis bloquée dans mon projet parce que je trouve que j'ai pas le nom. Et donc, du coup, que ça m'aidera à aller de l'avant et à mieux cerner le projet. Donc là, je me suis dit, à dimanche soir, j'ai trouvé un nom.
Bah écoute, c'est exactement la bonne méthode et je te félicite parce que je pense que peu de personnes ont cette discipline et acceptent, si tu veux, d'une certaine manière prendre une décision qui sera imparfaite, hein, c'est évident, mais qui te permettra d'avancer. Et je t'assure que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de valeur d'avancer plutôt que de se prendre la tête encore pendant 2 mois de plus sur le nom sans rien faire derrière. Parce que peut-être que le nom, tu vas le décider, mais parce que tu vas le décider, tu vas te mettre à faire d'autres choses, etc., etc., et ça va te mener ensuite à avancer plus loin et peut-être un jour à changer ce nom que tu auras décidé un peu trop vite, mais néanmoins, au moins, tu auras appris énormément, tu te seras peut-être cassé les dents, tu auras peut-être eu des succès, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, vraiment, l'erreur à ne pas commettre, c'est au démarrage d'une aventure entrepreneuriale, de passer trop de temps, si tu veux, dans la réflexion et pas assez dans l'action. J'arrête pas de dire sur mes réseaux plus d'action, moins de réflexion, pas parce que je pense qu'il faut pas réfléchir et qu'il faut être débile et faire n'importe quoi, mais parce qu'en fait, globalement, on est des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui sommes des personnes éduquées, voilà, les gens qui écoutent des podcasts, etc. Et notre problème est de façon générale, plus de passer à l'action, d'oser faire les choses, de rentrer dans le dur, d'être dans le concret, plutôt que, tu vois, de réfléchir à un sujet et de ne jamais le faire. Et donc, je te félicite pour ça. Et je pense que ce qui serait chouette, c'est que tu réfléchisses, et on peut le faire ensemble si tu veux, à, ok, là, le nom, c'est une bonne étape, franchement. Et tu as tout à fait raison de la mettre au début, parce que très souvent, ça permet de débloquer énormément de freins. Mais au-delà de ça, tu vas pouvoir acheter le site internet, etc. Mais au-delà de ça, c'est quoi l'étape d'après ? C'est quoi une vraie étape importante business pour toi ?
Là, pour moi, la prochaine étape, donc c'est à ce week-end d'arrêter le nom du projet. Et suite à ça, c'est d'acheter le nom de domaine donc qui serait lié au projet pour que je puisse déjà me faire une boîte mail julie@leprojet.fr, par exemple, pour que je puisse contacter de façon plus pro les fournisseurs avec lesquels je vais vouloir travailler pour leur envoyer la présentation de mon projet que je suis en train de finaliser également et du coup pouvoir vraiment avancer là-dessus. Et la deuxième, ça c'est pour moi c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de me laisser par exemple un mois et demi de délai et voir les retours que j'ai par rapport aux fournisseurs. Et si c'est des retours positifs, dans ce cas-là, ça va être poser les statuts de la société et d'acheter du coup... de voir avec un web designer pour faire le site internet et en avant Guingamp.
Écoute, franchement, ça me paraît top, mais ce que j'allais te dire, c'est bien. Je pense que tu peux être encore plus ambitieuse que ça et plus précise. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, ton deuxième point qui est donc d'avoir en fait un site internet, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça si tu es ton objectif. Pas que je suis pas pour le fait que tu déposes ton nom et que tu achètes ton nom de domaine, hein, c'est très bien. Mais si tu veux, c'est pas très inspirant finalement si je me mets à ta place, pour que tu aies envie de te lever le matin et de te dire il faut que je me batte et que tu arrives à trouver dans ton agenda déjà forcément très chargé une heure de plus. C'est pas finalement, si tu veux, assez valorisant, c'est pas suffisamment dans le rêve de se dire je dois déposer un nom de domaine, acheter un nom de domaine. Par contre, si jamais tu te fixes un objectif avec plus d'ambition, mais à un peu plus de 3 mois, tu vois, de l'attitude, là je pense que tu vas te dire bah en fait j'ai pas le choix, faut que je m'y mette, faut que je me retrousse les manches et faut que j'y aille. Et donc peut-être que c'est, tu me disais que tu devais contacter des fournisseurs, donc je sais pas quel est ton domaine d'activité, mais mettons que tu dois faire un produit, bah peut-être qu'il faut que tu aies ton premier devis ou peut-être qu'il faut que tu aies ton premier prototype. Et ça, tu me fixes une date, parce que c'est ça qui va faire que tu vas créer des petits miracles, parce que plutôt que de te prendre la tête une fois de plus sur plein de sujets, tu vas dire, bah non, en fait, la date, c'est dans un mois et demi, il faut que j'ai mon proto, du coup, il faut que je trouve un fournisseur, du coup, il faut que j'envoie 50 mails, du coup, il faut que j'y réponde. Enfin, tu vois, t'as un espèce de cercle vertueux qui s'opère quand tu crées un objectif très précis. Et plutôt et ambitieux, hein, ambitieux mais réaliste, bien sûr, plutôt que de juste, et une fois de plus, hein, c'est pas pour dévaloriser l'achat du nom de domaine, il est important, mais si tu veux, c'est un sous-objectif. C'est pas un objectif, on va dire, business important pour toi. Et en plus, c'est un exercice que je t'invite à faire parce que si je te le souhaite, cette boîte est créée, bah, c'est comme ça que tu vas continuer à travailler, je le pense, toute ta vie. C'est-à-dire que tu vas pas uniquement réfléchir en termes de c'est quoi la tâche, parce que finalement, acheter un nom de domaine, c'est plus une tâche qu'un objectif. C'est pas c'est quoi la tâche à faire pour aujourd'hui, mais plutôt c'est quoi mon objectif à 2 mois, c'est quoi mon objectif à 1 an, c'est quoi mon objectif à 5 ans. Et ça, quand tu commences à l'avoir de manière très précise, ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça va te donner des ailes. Ça va aussi donner des ailes à ton équipe parce que vous allez vous battre ensemble, le jour où t'en auras une, pour un objectif commun. Et donc, c'est beaucoup plus, si tu veux, inspirant que de réfléchir uniquement en termes de tâches qui parfois juste peuvent être chiantes à faire. Et du coup, si tu vois pas le pourquoi derrière, tu dis, bon, oui, OK, il faut que j'achète mon domaine, il faut que j'envoie des mails, ça va, quoi. Je préfère aller me faire des crêpes ou aller faire un tour, ou autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, il faut réaliser qu'on est, l'homme et la femme humaine sont fatigués et souvent un peu flemmards, et que si on n'a pas une forte motivation et donc un fort incentive au travers d'un rêve, eh bien, très souvent, juste la discipline, elle dure un temps, mais elle ne dure pas toute la vie.
Oui, bien sûr. Ok, donc plutôt me fixer des objectifs, donc à court terme, moyen terme et évidemment long terme. Et en fonction des objectifs à atteindre, c'est là où je peux décrire les différentes tâches que j'ai à faire pour atteindre cet objectif. Ça serait plus motivant. Exactement. D'avoir, comme ils disent en anglais, the greater picture en tête. Et,
Exactement. Je ferai pas à ta place un objectif trop long terme parce que ça peut être aussi un peu flippant, tu vois, si tu dis être le leader sur mon secteur alors que tu viens de lancer ta boîte. Parfois c'est bien d'avoir cette ambition, mais je veux dire, parfois les gens s'effondrent aussi quand c'est un objectif trop important. Bon bah tant mieux, mais ça peut être aussi des objectifs, je trouve, dans un premier temps à 2-3 mois, donc avec quelque chose de dur, d'ambitieux mais réaliste à 2-3 mois, ça c'est un bon objectif de départ, parce que forcément ça va faire que tu vas les atteindre, ces objectifs, qu'en 3 mois, tu vas faire des petits miracles. Et si tu ne te les étais pas fixés, très probablement, tu avancerais beaucoup moins vite, voire même, tu te démotiverais au bout d'un moment. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose de concret dont on pourrait parler, mais je pense que quelque chose qui, a priori, devrait prendre 2-3 mois à faire, ça me paraît être une bonne timeline, tu vois, pour un objectif intéressant et qui donne envie.
Bah là, concrètement, le projet, ce serait de créer un site marchand. Donc, c'est pour ça que d'avoir un site internet, c'est... ça sera mon biais de vente. Donc du coup, là, pour moi, le plus important, ça va être donc de contacter les fournisseurs pour que j'ai ma base de fournisseurs et donc de produits à proposer à ma future cible. Ça paraît peut-être ambitieux d'avoir ça sous 3 mois, parce que la web designer que j'ai contactée, je crois qu'il lui faut déjà un mois et demi pour créer le site web, et je suis dans une démarche où je veux moi aussi être formée par la web designer pour que j'ai entièrement la main sur le site internet, pour que je sois capable moi-même de faire les fiches produits, de faire mes shootings, d'alimenter le blog, etc., etc. Donc c'est vrai qu'avant de mettre en ligne le site internet, le site marchand, ça serait par exemple de mettre en place une page Instagram qui permettrait déjà dans un premier temps d'avoir une certaine communauté qui se construit autour de mon projet. Mais du coup, de lancer aujourd'hui un compte Instagram, sachant que à l'instant T, je n'ai aucun fournisseur, on rentrerait plus dans une démarche vraiment de partage du process, de création, de montage du projet, etc., etc. Je sais que c'est des leçons du gratin que tu avais déjà fait, mais du coup, est-ce que ça serait intéressant d'avoir une telle transparence avec la communauté, de dire je me lance, le projet ça va être ça, j'ai contacté tel fournisseur, il a dit oui, super, je suis à 5 fournisseurs, super, j'en ai 10, super, dans 3 semaines le site internet il est lancé, ça peut être intéressant.
Mais en fait, tout sujet est intéressant si jamais on le creuse et qu'on s'y intéresse, hein, une fois de plus. Et donc, je pense que tu peux tout à fait, si tu n'as pas envie, et c'est totalement légitime, parler de ton aventure entrepreneuriale, tu peux tout à fait parler de la marque et parler, préchauffer le four avec ça, et parler de si tu veux, de ton produit pour éduquer. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que du coup, les personnes qui vont commencer à te suivre sont des personnes qui seront sincèrement intéressées, en fait, par ce que tu racontes et donc par, d'une manière ou d'une autre, ton produit, même si tu l'as pas encore. Et donc, t'auras, si tu veux, d'une certaine manière, d'ores et déjà, quand tu vas lancer ta marque, une communauté active de personnes qui aiment déjà tes contenus et qui sont intéressées par ce type de contenu et donc qui potentiellement sont des clients pour toi. Donc, je pense que si tu veux, t'as plutôt pas trop de temps à perdre parce qu'une communauté, ça met du temps à se construire. Et moi, d'une certaine manière, c'est ce que j'ai fait avec le gratin parce que j'avais pas d'idée derrière la tête. Mais si tu veux, j'ai fait des contenus gratuitement qui m'intéressaient sur le monde du business, de l'entrepreneuriat, de la carrière. Et il se trouve que j'ai fini par lancer des formations à la demande, d'ailleurs, de mes clients, enfin, de mes auditeurs à l'époque, pas de mes clients. Mais je l'ai fait, comme j'avais déjà une communauté existante importante avec tous les contenus que j'avais créés, ben, entre guillemets, ça marche facilement puisque j'ai construit cette confiance et j'ai une légitimité. Toi, tu peux tout à fait le faire dans ton secteur et tu n'es pas obligé de le faire dans le secteur du business et de l'entrepreneuriat. Il faut que tu le fasses dans le secteur du produit que tu vas vendre.
Ouais, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le podcast justement que tu avais fait à ce sujet-là, la leçon sur comment alimenter son compte Instagram. Et donc, j'avais bien retenu que faire un contenu éducatif, ça permettait de générer de la communauté dans un premier temps, en l'absence de produits. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, le fait de partager mon périple entrepreneurial, c'est pas quelque chose qui me déplaît. Je trouve ça intéressant aussi et je trouve que ça permet de...
Franchement, si t'es à l'aise à l'idée de le faire, enfin, j'ai fait une leçon il y a pas très longtemps sur ce sujet, sur est-ce qu'on est obligé ou pas, tu vois, de se mettre en face cam sur Instagram pour vendre ses produits. La réponse est non. Mais par contre, évidemment, si t'es à l'aise à l'idée de le faire, c'est un plus parce que force est de constater que ça crée de l'engagement et donc de la confiance. Et donc, je pense que t'as tout intérêt à le faire. Après, c'est une fois de plus pas une obligation. C'est si tu te sens à l'aise et que tu as quelque chose à raconter, alors fais-le. Mais la question à chaque fois, c'est ne pas parler pour ne rien dire sur Instagram, parce qu'en fait, il y a déjà bien trop de contenu, si tu veux, pour l'audience.
Il y en a déjà beaucoup.
En revanche, si tu crées des contenus intéressants, sincèrement intéressants pour une audience qui potentiellement aimera ton produit à terme, là, tu vas commencer à construire une communauté intéressante.
Très bien.
Alors, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif pour ça?
Moi, j'aimerais me dire que dans un mois, j'ai un compte Instagram qui est lancé et que je commence à générer une communauté.
Alors, on peut se le dire entre nous, Julie. On est le 5 mars. Donc, moi, tu sais, j'aime bien les choses un peu précises. Un mois, ça me va pas. On dit quoi comme date?
Le 1er avril.
Le 1er avril, à quelle heure?
1er avril à 18h.
Donc, le 1er avril à 18h, qu'est-ce qui se passe précisément?
1er avril à 18h, je fais mon premier post sur mon compte Instagram en présentant donc la marque, le projet. Peut-être que j'aurai un logo d'ici là si j'ai eu le temps d'y réfléchir, si ça me paraît judicieux à ce moment-là de mettre ça en avant. Et à ce moment-là, j'espère que j'aurai, je me dis 5 fournisseurs au moins avec qui je travaillerai que je pourrai commencer à annoncer.
1er avril, 18h. Je compte sur toi, lancement du compte Instagram, je serai là, je te stockerai et la communauté du gratin également.
Je te ferai un mail.
Et tu nous annonceras si tu as tes 5 fournisseurs, oui ou non. Je te préviens, on ne sera pas content si ça n'est pas le cas. Donc maintenant, c'est dit, tu as une communauté entière qui te tombera dessus.
Eh bien, super. Vous serez le début de ma communauté.
Exactement. Bah, écoute, Julie, je te remercie en tout cas pour ton temps. C'était très chouette. Je te souhaite tous les succès possibles et imaginables pour cette belle aventure. Et puis, tiens-moi au courant, du coup, pour ce résultat.
Merci beaucoup, Pauline. Et avec grand plaisir. J'espère te tenir au courant très vite de l'avancée de tout ça.
Avec plaisir. Allez, à bientôt.
Au revoir.
Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Un grand, grand merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles ou même un petit commentaire sur l'application iTunes. Et puis si iTunes, c'est pas votre truc, si Apple, vous avez pas envie d'en entendre parler, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous. Prenez 2-3 amis et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, ça les aidera aussi, peut-être. Quoi qu'il en soit, merci pour votre temps. N'hésitez pas à postuler aussi à la leçon du gratin certain, si l'idée de passer sur le podcast vous intéresse, donc à vous de jouer, et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin.